Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. 5 mois d'enquête et des conclusions alarmantes sur la sûreté nucléaire en France. Des députés dénoncent dans un rapport une trop grande dépendance de l'Hexagone au nucléaire et une défaillance dans les installations, des failles matérielles et des risques humains. Enjeu décrypté dans un instant.
Une nouvelle nuit sous tension à Nantes. 11 personnes interpellées après la mort d'un jeune de 22 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier.
À la une également, 2 opposés qui se rencontrent aujourd'hui à Berlin. Angela Merkel reçoit le Premier ministre hongrois Viktor Orban, son principal opposant en Europe sur la crise migratoire. Et puis une quasi-fronde dans les rangs de la France insoumise, des personnalités dépitées de ne pas avoir été retenues hier parmi les premiers candidats pour les élections européennes de l'an prochain.
On poursuit notre discussion à partir de 8h15 avec notre invité Cyril Dion. Plan de biodiversité, inscription de la protection de l'environnement dans la Constitution, mais on parlera aussi de nucléaire. Tous ces sujets seront abordés dans le quart d'heure qui nous restera avant 8h30 et nous rejoindra par téléphone la juriste Valérie Cabanès.
Tchernobyl, Fukushima avait déjà mis à mal le mythe de la sûreté nucléaire absolue. Des ONG avaient alerté depuis sur le sujet, comme Greenpeace, qui a fait s'écraser intentionnellement mardi un drone et un avion télécommandé contre la centrale nucléaire de Bugey dans l'Ain. Des parlementaires enfoncent le clou ce matin dans un rapport, fruit de 5 mois d'enquête, une quarantaine d'auditions et une dizaine de visites sur site. Des députés estiment que nos centrales et réacteurs nucléaires ne sont pas assez sûrs. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
Les députés évoquent des installations vieillissantes, rendues plus vulnérable encore par la sous-traitance.
EDF sous-traite aujourd'hui 80% de la maintenance de ses 58 réacteurs nucléaires. Ce recours massif de l'industrie nucléaire à la sous-traitance est inquiétant à plus d'un titre, notent les députés. Il signifie une perte de compétences de l'exploitant lui-même. EDF a progressivement perdu une partie de son savoir-faire, incapable aujourd'hui d'effectuer certaines interventions délicates sur ses propres réacteurs. Cette dépendance quasi totale vis-à-vis des entreprises prestataires implique de fait aussi une dilution des responsabilités. La recherche du moins-disant économique d'EDF vis-à-vis de ces entreprises qui travaillent pour elles sont aussi un problème en matière de sûreté, exigence de rentabilité exercée sur ces sous-traitants, au point, note le rapport, d'en arriver à un nombre croissant d'arrangements frauduleux de travail réalisés dans la limite de la légalité. Un des exemples cités est celui d'un soudeur non habilité travaillant avec les autorisations d'un collègue sur ordre de son employeur. Et puis il y a cette question des députés directement liée au retour d'expérience de Fukushima. Quel rôle aurait à jouer les sous-traitants en cas d'accident nucléaire en France? L'ancien directeur de la centrale japonaise a raconté que les sous-traitants étaient partis très rapidement, considérant que la tournure prise par les événements, l'accident de Fukushima, n'était pas prévu dans leur contrat. Vivrait-on la même situation en France?
Et dans le rapport, Véronique, on peut également lire que les installations nucléaires n'ont pas été conçues pour répondre à une agression terroriste.
Une faille originelle, on ne parlait pas il y a 40 ans, au moment de la construction de nos centrales, de risque terroriste comme maintenant. Cette question de la résistance des centrales à une chute d'avion ou des piscines nucléaires à la chute d'un engin explosif emmené par un drone, par exemple, un peu moins pacifique que ceux de Greenpeace, eh bien, ont été posées à de nombreuses reprises par les députés. Questions concrètes sans réponse. Le secret défense a presque systématiquement été opposé aux membres de la commission, tant par EDF que par les pouvoirs publics. Une opacité, hein, écrivent les députés, pour qui le propos qui consiste à demander à la représentation nationale de faire confiance est difficilement acceptable. Risque terroriste externe, risque aussi en interne, que ceci n'est pas non plus complètement maîtrisé, lit-on dans le rapport, quand, du fait de la sous-traitance, on y revient, bien les antécédents des travailleurs étrangers notamment, nombreux sur les sites nucléaires, ne peuvent pas être contrôlés.
Véronique Roberotte, merci pour ces explications. Et d'ailleurs, à propos de la question du secret défense, la députée En Marche, Barbara Pompili, rapporteure de ce rapport, ancienne secrétaire d'État à la biodiversité, propose que des députés soient habilités secret défense pour suivre la transparence sur les installations nucléaires. Une deuxième nuit de violence à Nantes, dans les quartiers du Breil, de Malakoff et des Dervalières. 11 personnes ont été interpellées au lendemain de la mort d'un jeune homme de 22 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier. Alors qu'une marche blanche est prévue aujourd'hui, la famille du jeune homme tué appelle au calme. Mais le Breil s'est encore enflammé hier soir. Sandrine Etoy-Andegg.
Gendarmerie nationale, dispersez-vous, on va faire usage de la force.
Les premières bombes de gaz lacrymogène pleuvent à la nuit tombée. Dans le camp d'en face, des projectiles improvisés, barres de fer, bouteilles en verre. Dans l'air irrespirable, des jeunes se fraient un chemin. Ils viennent du Breil, de quartiers environnants.
Il y a même les zadistes en soutien. Voilà.
Plusieurs panneaux de signalisation arrachés tombent avec fracas. Des flammes émanent de voitures calcinées. Des vitres volent en éclats. Une expression de rage que cette mère de famille observe et approuve.
Ils l'ont tué devant eux. Vous voulez faire quoi? C'est de la bavure policière.
Myriam, elle, s'interroge.
La colère, bien sûr, elle est instinctive, mais on ne conditionne pas. Mais moi, si c'était mon fils, je ne sais pas comment je réagirais. Je ne sais pas. Parce que liberté, égalité, fraternité, j'aimerais bien le voir dans cette affaire.
Une affaire entre les mains de la justice, mais qu'elle estime perdue d'avance.
Sandrine Etoa-Andeg à Nantes pour France Culture. Le prélèvement de l'impôt à la source sera décalé d'un an pour les salariés des particuliers pour entrer en vigueur en 2020. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, dans un entretien au journal La Croix. Leur pétition aura finalement eu gain de cause. Les opposants à l'article 2 du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles ont donc gagné face au gouvernement. Hier, Marlène Schiappa a annoncé la suppression de la notion d'atteinte sexuelle sur mineurs avec pénétration. Les opposants à cet article craignait une correctionnalisation des viols sur mineurs, c'est-à-dire que ces viols puissent être plus facilement jugés en correctionnel plutôt qu'aux assises. Le luxe continue de rapporter gros. Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, est pour la deuxième année consécutive l'homme le plus riche de France, selon le classement du magazine Challenge qui sort aujourd'hui. Podium complété par Alain et Gérard Wertheimer, les deux frères discrets, propriétaires de Chanel, suivi ensuite par Axel Dumas, le gérant d'Hermès. Au total, le montant cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a été multiplié par 3 en 10 ans, atteignant un record de 650 milliards d'euros. Un plafond jamais atteint selon l'hebdomadaire Challenge. La fortune des premiers de cordée a progressé de 13% en un an. Les premiers de cordée, expression utilisée par ailleurs par plusieurs personnalités de la France insoumise, dépitées de ne pas avoir été retenues hier parmi les premiers candidats pour les élections européennes de l'an prochain. Ils dénoncent le choix qui se porterait sur des proches de Jean-Luc Mélenchon. Cette liste doit encore être validée par les militants insoumis, mais elle suscite déjà des tensions, Frédéric Saïs.
En tête de liste, Manuel Bompard et Charlotte Girard, respectivement directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et coordinatrice de son programme. En sixième position chez les candidates, l'ancienne compagne de Jean-Luc Mélenchon. En troisième position chez les hommes, son gendre. Est-ce à dire que c'est seulement la proximité personnelle qui est récompensée? La France insoumise objecte que toutes ces personnalités ont leur parcours politique propre, leurs compétences. Ce n'est pas l'opinion de Lim Wang Nok, ce cadre de la France insoumise venu du PS, est ancien député européen. Il n'a pas été retenu parmi les candidats aux places éligibles, ce qu'il appelle les premiers de cordée, et cela en dépit de son expérience.
Quand vous regardez le profil des premiers de cordée, c'est des gens qui vont pour la plupart découvrir ce qu'est l'Europe. Si on avait voulu vraiment changer l'Europe, on aurait renvoyé des gens qui sont déjà identifiés comme étant les interlocuteurs possibles de la Commission, de la Banque Centrale Européenne et de l'Eurogroupe.
Tout a été verrouillé par la direction, abonde un membre du comité électoral, Lilian Gelfi, dans le journal Libération. Ce militant, tiré au sort pour faire partie de l'instance, parle d'une manipulation savamment orchestrée. Une accusation démentie par Manuel Bompard, membre de cette commission et donc futur candidat tête de liste.
Pour nous, en tout cas, le comité électoral n'a pas été l'objet de tensions. Au contraire, c'est un travail qui s'est fait vraiment dans une ambiance très cordiale et avec un grand sens des responsabilités.
Quant à Jean-Luc Mélenchon, il affirme ne pas s'être mêlé des désignations, ce qui laisse sceptique Lim Wang Nok. L'ex-socialiste en vient presque à regretter son ancien parti.
Au moins au PS, il y avait des règles. Les courants étaient respectés à la proportionnelle, calculés à partir du vote des militants sur des textes. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de règles, et donc ça se fait naturellement au rapport de force et au coup fourré. On voulait rompre avec la vieille politique et on se rend compte que les postures adoptées nous ramènent dans l'ancien monde.
Un reportage signé Frédéric Saïs.
8h, presque 10 sur France Culture, la suite de votre journal, Catherine Dutu. Les combats ont repris hier soir en Syrie, dans la région de Deraa.
Après 4 jours de pause, les troupes de Bachar al-Assad et leurs alliés russes ont repris leur offensive sur cette région du sud de la Syrie, frontalière de la Jordanie et du plateau du Golan, en majeure partie occupé par Israël. Près de 300 000 civils ont été contraints de fuir leur maison depuis le mois de juin à cause de l'intensité des combats. La Jordanie refuse d'accueillir de nouveaux réfugiés. 650 000 Syriens sont déjà présents dans le pays. La question migratoire en Europe est de vision face à face. Aujourd'hui à Berlin, la chancelière Angela Merkel reçoit Viktor Orban, le premier ministre hongrois, son premier opposant en Europe. La correspondance à Berlin de David Philippot.
Une première visite tout à fait normale pour un chef de gouvernement réélu, c'est le commentaire à la chancellerie, mais le moment choisi lui donne une autre dimension. La dernière visite de Viktor Orban remonte à 2015, mais depuis, alors que l'idée d'Angela Merkel de répartition automatique des migrants en Europe a été catégoriquement rejetée, le vent a tourné, comme l'écrit un quotidien hongrois, et la chancelière se voit dans l'obligation de négocier des accords bilatéraux sur le retour des migrants, pays par pays. La Hongrie ne dit pas non, selon une interview donnée par Orban au quotidien Bild, mais pose d'abord ses conditions, qu'un accord soit négocié au préalable avec Vienne. Cette mission s'annonce délicate car l'Autriche, avec les contrôles renforcés à la frontière allemande, craint de voir son territoire transformé en salle d'attente pour les réfugiés. Afin d'arrondir les angles, Horst Seehofer se rendra à Vienne aujourd'hui pour rencontrer le chancelier Kurz. Le ministre de l'Intérieur allemand, qui annonce que l'accueil des migrants dans les centres de transit ne durera pas plus de 48 heures, le temps que leur dossier soit traité en accéléré, ce qui pourrait permettre d'amadouer les partenaires de coalition sociaux-démocrates pour qu'ils donnent leur feu vert à l'accord de gouvernement sur les migrants.
David Philippot à Berlin pour France Culture. En Pologne, la confusion demeure autour de la loi controversée sur la Cour suprême. Alors que le texte met d'office à la retraite tous les juges âgés de plus de 65 ans, la présidente de la Cour, elle-même concernée par la réforme, refuse de quitter son poste, soutenue par ses confrères, par Lech Wałęsa également. Le prix Nobel de la paix, ancien président polonais, est venu manifester son soutien hier à la Cour suprême. L'Europe, de son côté, craint une mise sous coupe du pouvoir judiciaire, mais n'arrive pas à faire plier les conservateurs au pouvoir à Varsovie. Un vote crucial aujourd'hui au Parlement européen sur la question des droits d'auteur. À midi, les eurodéputés vont se prononcer pour ou contre le texte de réforme du droit d'auteur qui propose notamment de contraindre les géants du net à rémunérer mieux les éditeurs de presse et les créateurs pour leur production mise en ligne. Depuis des mois, une intense activité de lobbying a eu lieu auprès des parlementaires, des géants de l'internet, des partis politiques, de la part des artistes, des auteurs, notamment en jeu décrypté par Cécile de Kervas-Doué.
L'idée de la Commission européenne quand elle lance cette réforme en septembre 2014, c'est d'adapter le droit d'auteur, tant pour les artistes que pour la presse, à la révolution numérique. La dernière législation sur le sujet remonte à 2001 et n'est plus du tout en phase avec une réalité où les auteurs se font largement piller leurs œuvres sur le net. Cette directive droit d'auteur prévoit donc de créer un droit voisin pour les éditeurs de presse. L'idée est d'obliger les géants du net, que sont Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook ou Twitter, à payer les entreprises et les auteurs qui produisent tous les articles qu'ils agrègent sur leur plateforme et qui leur apportent énormément de ressources publicitaires. L'autre volet de la directive propose, lui, de mettre en place un filtrage automatique a priori de tous les contenus protégés par un droit d'auteur. En clair, vous ne pourrez plus poster ni regarder que ce que les plateformes comme YouTube ou Dailymotion auront négocié avec les ayants droit. Une aubaine, donc, pour les sociétés de gestion des droits d'auteur, pour les producteurs et pour les auteurs, dont 70 artistes ont rappelé dans une tribune combien ils souhaitaient que le texte soit adopté. En revanche, ce filtrage inquiète largement les plus petits artistes. Ils craignent que les algorithmes de filtrage ne bloquent leur vidéo avant même qu'ils ne puissent la poster, sans apprécier par exemple que c'est une parodie de l'humour, un parti pris artistique. Et puis ce qui inquiète aussi la société civile, 140 associations du net, dont Wikimedia ou la Quadrature du Cercle, c'est que cette réforme prévoit de bloquer la possibilité de faire des liens hypertextes. Sur son site, suspendu, Wikipédia explique par exemple ne pas pouvoir sourcer une information avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'éditeur de presse, c'est rendre impossible la modification de près de 1 million de pages par mois, et donc c'est nuire au droit de l'information. Ce à quoi les éditeurs de presse répondent, mais il n'y a pas de droit à l'information sans juste rémunération des auteurs.
Les plaidoiries des avocats des parties civiles hier à Créteil, procès pour un cambriolage commis fin 2014 par trois hommes avec des violences et un viol, un dossier où plane l'ombre de l'antisémitisme, comme l'explique maître Dorothée Bisaccia-Bernstein, avocate de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.
On a l'impression à les entendre d'être basculés dans un autre monde, dans un monde où la République une et indivisible comme on la rêve et comme on la pense au quotidien a disparu pour céder le pas à juxtaposition de communautés qui ne cohabiteraient même pas mais qui coexisteraient difficilement en attendant le drame.
Est-ce que c'est le procès du communautarisme ?
Je ne pense pas que ce soit le procès du communautarisme. Je pense que c'est le procès de l'échec d'une certaine forme de communautarisme dont on perçoit aujourd'hui les errements. C'est le procès de jeunes gens qui sont biberonnés à des préjugés tout petits, qui grandissent dans une certaine forme de misère économique et intellectuelle et qui ne vont pas rencontrer de personnes suffisamment cortiquées et investies pour leur faire dépasser ces préjugés.
Les préjugés peuvent partir d'écueils types comme les juifs ont de l'argent, les juifs ne mettent pas l'argent à la banque parce que cet argent est forcément illicitement gagné. Dès que les juifs sont touchés par un fait divers, c'est une médiatisation immédiate. Tout ce qu'on peut retrouver finalement sur les réseaux sociaux et dans les commentaires d'articles, on les retrouve ici chez les accusés, dans les écoutes téléphoniques et dans tout ce qui fait leur quotidien.
Dorothée Bizaccia Bernstein, avocate de la LICRA, au micro d'Antoine Marette. Les violents orages qui se sont abattus hier en Nouvelle-Aquitaine ont fait un mort, un homme de 64 ans tué à vélo en Corrèze. Après la chute d'un arbre, près de 185 000 foyers sont par ailleurs toujours privés d'électricité ce matin. Le temps de ce jeudi 5 juillet, toujours instable avec des orages marqués sur le nord-est. Les températures sont comprises ce matin entre 15 et 20 degrés en général, un peu plus frais près de la Manche, avec 13 à 15 degrés, 21 à 22 pour la Corse et la Côte d'Azur. Cet après-midi, comptez de 21 à 26 degrés sur une grande partie de l'Hexagone, jusqu'à 32 près de la Méditerranée. Olivia Gesbert.
Merci Catherine Dutu. Rendez-vous pour un prochain journal à 9h.